Radio Foot International.
Olivier Prompt.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Radio Foot International. Elle n'est pas là, elle vous a abandonné, elle est partie se reposer, parler à ses chats et boire du thé. La dame reviendra, c'est promis, dans 8 jours, elle vous embrasse, elle nous l'a dit. D'ici là, il faudra vous contenter de mardi à vendredi, du goût moissonnier. Voilà, c'est dit. Et donc on est ravis, quel programme pour un lundi. Liverpool City, what game, dirait-il là-bas, tant de choses à dire, quand je pense qu'après il a fallu regarder OM-OL. Bon enfin... Reds, Citizens, Salah, Firmino, Mané. Ah, Mané. Un arbitre contesté, City et sa défense plombée, ses occasions gâchées, Klopp, Guardiola. Au final, au tiers du championnat, Liverpool, c'est 8 longueurs d'avance sur Leicester et Chelsea, 9 sur City. Mais on sait tous que ce n'est pas fini, n'est-ce pas, monsieur Bongali?
Exactement. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous.
Bonjour, on est ravis de vous accueillir. C'est lundi, on l'a dit, c'est jour de pluie et d'armistice. Du coup, on a aussi invité monsieur Lortolari. Bonjour David.
Bonjour Olivier, bonjour à tous. Tête Noël pour Annie ou...
Avec vous, on va parler Allemagne, évidemment.
Volontiers.
Et Kolossaler Prügel, en français dans le texte, énorme branlé. Eh oui, c'est monsieur Pierre-Olivier Guérin qui a traduit ça.
Il parle allemand,
bien sûr.
Je retiens Prügel.
La branlée s'est infligée samedi par un Bayern soi-disant aux abois à un Dortmund qui, cette fois-ci, disait-on, allait avoir sa chance en Bavière. À l'arrivée, c'est pas si mal pour les hommes de Lucien Favre. Ils n'en ont pris que 4 contre 5 l'an passé et 6 la saison d'avant. Nous nous attarderons sur Robert Lewandowski et ses stats de feu. Nous nous demanderons si l'intérimaire Hansi Flick ne pourrait pas rester sur le banc plus longtemps que prévu et si Favre, un jour, y arrivera. Et puisque finalement, ni le Bayern, ni Dortmund ne sont en tête de cette Bundesliga. Nous nous souviendrons que le leader, Mönchengladbach, était un club phare des années 70 qui renaît enfin de ses cendres. C'est lundi, on le répète, on va faire sa fête à Payet. Il faut dire que lui l'a bien fait, la fête, à Garcia, à l'OL. 5 ans que Marseille n'avait plus battu Lyon, ça se fête, et la Canebière a donc bien festoyé. Quelques abrutis ont bien caillassé. Et donc, comme tous les 6 mois, seulement hélas, Dimitri Payet à régaler. Et voilà l'OM dauphin du PSG, enfin au moins jusqu'à la prochaine journée. C'est toujours ça de pris, hein, Marc Libra.
Bonjour Olivier, bonjour. Mais c'était l'événement du siècle, presque. Mais que dis-je,
mais vous n'y étiez pas.
Non, mais vous inquiétez pas, j'étais présent, la famille Libra était présente déjà au stade.
Et puis comme la dame n'est pas là, nous avons invité une mademoiselle, Marie-Amélie Motte, bonjour.
Bonjour Olivier, bienvenue. Bonjour à tous.
Allez, comme d'hab, plus le temps de niaiser, Radio Foot, commandé par Laurent Salerno, communiqué par Pierre Haut, c'est parti.
Angelino was there, falls here to Fabinho. Robertson, the cross goes in, this is dangerous, Salah! Oh goodness me! Devastating counter-attacking football by Liverpool! Good cross that is, Bravo, he's missed it! And Mane has scored! What a piece of work by Jordan Henderson down the right flank!
Oh, c'est courant de l'Angleterre! Et peut-être en train de tomber!
Laurent Salerno est un maître, vraiment, un DJ, né. La bande musicale, vous aurez apprécié, les commentaires anglais... Petit français à la fin. Bon, alors, on s'est régalé hier en fin de journée sur Canal, non, sur RMC Sport, enfin bref, sur les deux, hein, il y a Salim qui est là. Quel match, faut bien piquer un peu.
Mais vous faites bien.
Il est bon.
Un sommet qui mérite son nom, car il a répondu aux attentes, et ça n'est pas si fréquent, vous êtes d'accord avec ça?
Si vous me permettez, quand même, les plutôt gros chocs en Angleterre, notamment
oui,
cette
en
saison
Angleterre.
Et la dernière saison, ont plutôt répondu présent. Il y a toujours des exceptions. La saison dernière, d'ailleurs, le Liverpool City, il faut le reconnaître, à Anfield, avait été quelconque. Hein. Il n'y avait eu que le pénalty en fin de partie de Mahrez qui avait été loupé, qui avait été l'un des moments de la partie. Sinon, on n'avait rien vu. Donc oui, ça arrive. Après, quand même, depuis une bonne année, les chocs donnent plutôt du spectacle. Et ça a été encore le cas hier.
Petit tour de table rapidement. David, vous avez apprécié?
Oui, dans la droite ligne de ce que Jürgen Klopp faisait déjà par le passé, ce qu'il réussit à faire, même avec des joueurs, et mes camarades, je crois, en discutaient avant qu'on prenne l'antenne, avec des joueurs qui sont parfois un peu rincés dans le fil de la saison, pas juste à la fin, enfin, rincer le mot est peut-être un peu fort.
En tout cas, fatigué.
Mais avec Liverpool, il y a quand même cette intensité, on a l'impression que c'est vraiment l'identité de ce club, et c'est pourquoi il est au-dessus en ce moment, en Europe et en Angleterre.
Marc Libra, c'était pèdent mieux, enfin juste en dessous de Marseille-Lyon.
Ah bah bien sûr, attendez, soyons sérieux quand même. Mais jusqu'à quand ça va durer? Parce que c'est vrai que Klopp ne fait pas tourner. Quand on parle de rincer, je pense que les joueurs sont peut-être un petit peu épuisés, mais ils s'en sortent toujours. Alors il va y avoir une bourde d'un gardien, il y a un but à la 93e, et ils s'en sortent toujours, ils sont sur une très belle série. Mais jusqu'à quand ça va durer? Parce que c'est vrai que c'est impressionnant, les joueurs répondent toujours présents. Il faudra voir par la suite, mais en tout cas, oui, c'est un match où même quand City marque, on peut se dire il peut y avoir 3-2 ou 3-3. On a toujours, parce que il a quand même une défense avec Lovren qui fait peur.
Juste, je me permets juste de répondre à votre première question, quand vous évoquez le côté spectaculaire, l'affiche même Liverpool City.
Alors, c'est vrai, on l'attendait. Oui. On savait tous qu'il y avait des beaux matchs ce week-end. C'est celui-là, ça. C'était.
Mais je vais même aller plus loin, Hugo, je vais vous appeler. Oui, non, vous n'êtes pas aussi jeune. Vous n'êtes pas aussi jeune. Vous êtes un peu plus expérimenté.
Mais Hugo, c'est demain.
C'est ça.
Mais c'est Olivier.
Bonjour, Olivier.
Mais aujourd'hui, en Europe et même dans le monde, je vais aller plus loin, dans un championnat, parce que souvent. On parle de Barça-Real, évidemment, comme du classico à juste titre. Sauf qu'aujourd'hui, en termes de niveau, de jeu, en termes de joueurs...
D'intensité.
Mais Liverpool City est, à mon sens, au-dessus de Barça-Real. Aujourd'hui, Liverpool City, alors, on en parlera avec David dans quelques instants, est-ce que c'est au-dessus de Bayern Dortmund? À mon sens, oui. Au-dessus des autres, des Juventus Milan, Juventus Inter? À mon sens, oui. Oui, aujourd'hui, Liverpool City est, pour moi, le match le plus... gros, le plus impressionnant en Europe et donc dans le monde.
Et on rappelle que vous travaillez pour le diffuseur de ce match-là. Non, je plaisante. Amélie, vous l'avez regardé ce match?
Bah oui, tout à fait.
Ça vous a plu?
Évidemment.
Oui, on se régale toujours, on n'est jamais déçu.
Jamais.
Jamais déçu par ce match-là. Celui qui n'a pas été déçu hier s'appelle Jürgen Klopp. Lui, il a carrément adoré.
I like the game. I love the atmosphere, people, just amazing.
J'ai adoré le match, l'ambiance, les supporters ont été exceptionnels et nous avons joué contre un adversaire incroyablement fort. J'ai aimé nos buts, notamment le troisième inscrit par Sadio Mané. C'était super, mais nous ne pensons pas au classement, aux 9 points d'avance. Personne ne veut être en tête au mois de novembre. Nous voulons être en tête au mois de mai. Nous faisons simplement de notre mieux et nous verrons le résultat à la fin.
Ouais. Alors je chambre bien sûr Salim Boumgali, mais soyons honnêtes, c'est vrai que c'est quand même le gros match du moment, Liverpool City, on est rarement déçus. Hier on s'est régalé, Klopp a aimé, finalement c'est très logique qu'il ait aimé son équipe à gagner, rien volé.
Alors après on va l'évoquer dans quelques instants par rapport à l'arbitrage, par rapport aux propos de Pep Guardiola à l'issue de la partie, mais au-delà même des séquences arbitrales, Liverpool a appliquer une recette, celle de l'intensité, qui a été évoquée par Marc et David il y a quelques instants. Et au final, l'intensité a été mise de manière épatante par cette équipe. Les joueurs, je pense notamment au milieu de terrain, parce qu'on évoque souvent Salah, Mané, Firmino à juste titre, buteur hier pour le premier et le troisième cité, mais Wijnaldum, Henderson, Fabinho, ils ont été dans l'impact, dans les récupérations, dans le pressing, tellement au-dessus, notamment du milieu de terrain, forcément, on l'oppose au milieu de terrain en face, Rodri, notamment d'autres joueurs qui, à leur côté, ont été un ton en dessous. Ces trois-là ont été tellement forts en termes d'intensité. C'est pour ça que Klopp est content. Je rappelle le propos, 11 victoires et un match nul en 12 journées. C'est du
ça veut dire 34 points pris sur 36 possibles. Ça claque, ça, quand même.
Non, mais ça claque. Mais pour
dans un championnat qui est quand même connu pour être difficile,
même
compétitif.
Même quand on joue contre le 20e. Mais le plus impressionnant, c'est cette équipe de Liverpool. On prend l'exemple de Fabinho la saison passée, qui n'a pas forcément toujours joué, qui a été un petit peu le remplaçant
au
de
début,
luxe.
Après, là,
mais au début, il a fallu qu'il s'adapte. Aujourd'hui, sur le match de hier, en rôle de 6, il a été énormissime. Parce que pour moi, Lovren est vraiment souvent en difficulté. Mais Van Dijk et notre ami Fabinho qui est devant... a été simplement extraordinaire. C'est-à-dire que il est capable de marquer un but à 25 mètres, il est capable de bien défendre, d'aller couper des trajectoires. C'est vraiment cette équipe-là est très très impressionnante dans ce système de jeu-là. Maintenant, jusqu'à quand ça va durer? Parce que si on peut remettre aussi quand Fabinho marque, juste après il y a deux coups francs pour United, City, pour City. Et là, malheureusement, il y a personne qui coupe. C'est-à-dire que tout le monde est presque surpris pour dire quoi. Il y a la VAR, il y a pas la VAR, mais c'est des ballons très importants. Et vraiment, ce qui a fait la différence sur ce match-là, pour moi, sur ce que j'ai vu, c'est que Liverpool, tout ce qu'ils ont pu faire, c'était très bien fait. Tout ce qu'a fait City dans la dernière passe, tout était raté. J'ai rarement vu ce genre de... Parce que même Sterling, on va en parler des fautes de l'arbitrage, mais deux, trois fois, il doit donner de suite. Hop, il fait le crochet trop. Il fait un crochet extérieur de trop. Il fait... Et on n'est pas habitué avec City. Alors, le choix de Mahrez qui n'apparaît plus, alors ça, c'est... surprenant aussi.
Vous avez réveillé Nabil Djalit qui est en pleine sieste.
Hein, non, non, mais
il a tweeté 44 fois depuis hier.
Non, mais c'est pas.
Et 250 fois depuis
cinq matchs. Je trouve ça très étrange, mais.
Et 300 fois sur Slimani.
Ouais, et sur Slimani aussi.
Mais en fait, c'est ou l'un ou l'autre.
Cette équipe de Liverpool, elle a beaucoup de talent et surtout de la réussite actuellement pour moi, vraiment.
Mais elle a la réussite d'un futur champion. Alors, il le dit, Jürgen Klopp, et je l'ai dit dans les titres, bien sûr qu'on va pas s'emballer. On va revenir sur le classement tout à l'heure. Il y a de l'avance, mais on savait aussi que au moment du Boxing Day, de la période du Boxing Day l'année dernière, il y avait aussi beaucoup d'avance. Et puis, elle a fondu comme neige au soleil.
Sept.
Bah là, il y a 8 points, même 9 sur City. 8 points sur le tandem Leicester-Chelsea. 9 sur City. Néanmoins, c'est une équipe qui semble intouchable, notamment parce qu'elle a la réussite du futur champion. Quand on gagne ces matchs-là, c'était pas le cas hier, mais un paquet de matchs dans les dernières minutes, c'est impressionnant et ça donne une petite idée.
Oui, et puis les points pris sont plus à prendre quand même, parce que là, alors tout ce qui a été évoqué, les arguments de Marc, Salim aussi, moi j'ai l'impression quand même que il a fallu que ce soit favorable à Liverpool, la dernière passe ratée de Manchester City, quelques décisions peut-être aussi de l'arbitre à quelques moments du match, pour que ça bascule en faveur de Liverpool. Ce qui veut dire que si on se retrouve avec une exécution égale dans les gestes, dans l'intensité aussi, on se retrouve, c'est ce que Marc, tu semblais dire quand même aussi à demi-mot, on se retrouve avec un Manchester City qui serait un peu supérieur peut-être sur l'ensemble des qualités. Donc les points qui sont pris maintenant, Olivier, par Liverpool, ce sont des points qu'ils pourront dilapider ensuite parce qu'ils auront l'avance pour le faire. Avec moins de pression, et la pression elle va être du côté de Manchester City, et lorsqu'on doit absolument gagner des matchs, lorsqu'on doit absolument rattraper des points de retard, là on a... N'ayant plus le droit à l'erreur, c'est peut-être plus difficile même pour les grands champions.
Et quand on a un tel matelas, on est bien content d'avoir Salah, Mané. Souvenez-vous, alors je peux plus dire maintenant ceux qui doivent voter Mané parce que les votes sont clos depuis la semaine dernière. Rendez-vous le 2 décembre, il faudra passer aux explications, tous ceux qui ne l'auront pas mis. Allez, on va dire au moins sur le podium. Je voudrais me fâcher avec personne, surtout, mais bon,
non,
voilà. Nous, on aimerait bien qu'il soit premier, on l'a dit, on l'a répété, voilà.
On se cache pas.
C'est comme ça, il a eu la gentillesse de répondre à nos questions la semaine dernière, c'est notre chouchou.
C'est pas pour qu'on veut qu'il soit premier,
Mais voilà, bien sûr, c'est d'abord parce qu'il est bon. Salah, Mané, buteur hier, Firmino, c'est chaud quand même, ces trois-là, et on a demandé à Marie-Amélie de se pencher un peu. Est-ce que c'est ce qui se fait de mieux en Europe en ce moment, Marie-Amélie ?
Alors, pas exactement. Je vais vous expliquer pourquoi. La triplette Mané, Salah, Firmino, c'est 23 buts et 18 passes décisives cette saison, toutes compétitions confondues.
C'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal, mais c'est difficile de les comparer avec d'autres trios d'attaque européens, puisqu'il y a eu pas mal de blessés ou de turnover chez les grosses écuries depuis le début de la saison. Mais quand même, à titre de comparaison, le seul trio qui fait mieux, c'est celui du PSG. 26 buts déjà pour Di Maria, Icardi et Mbappé, 14 passes décisives. En Espagne, la triplette du Barça, Messi, Suarez, Griezmann en est à 21 buts et 9 passes décisives. Et du côté du Real, Benzema, Rodrigo et Hazard ont inscrit en tout 17 buts et pour 10 passes décisives.
Ils s'y sont tous passés, hein. Ça fait rêver toutes ces triplettes-là, mais bon, voilà. Pour l'instant, c'est au PSG que ça se passe et il n'y a pas Neymar. Enfin, on aura l'occasion de reparler du PSG, du retour de Neymar et de comment on va jouer.
Oui, si vous permettez de rebondir sur ces chiffres qui sont pour le coup intéressants, on voit que le PSG, le
trio
du PSG.
De le reconnaître. C'est intéressant d'avoir fait travailler Marie-Amélie.
Même elle a bien fait parce que, effectivement, quand on voit le trio du PSG qui est donc au-dessus en chiffres, pas de problème là-dessus, c'est un fait. Après, et c'est là que moi, je me permets de pondérer, non pas les chiffres et le travail d'Amélie, mais plus les supporters qui vont aller, certains vont dire « Ah, bel trait du PSG au-dessus ». Après, je rappelle quels sont les adversaires du PSG et quels sont de Liverpool, évidemment.
Bien sûr. Et sans doute en ce moment, Salah, Mané, Firmino dans ce championnat, compte tenu du contexte, c'est sans doute ce qui se fait de mieux. Après, ça se juge, bien sûr. On est au tiers de la saison, quoi, à peu près, entre le tiers et le quart. On a le temps.
On a le temps.
C'est énorme.
Alors, une attaque comme ça, face à une défense comme ça. Alors, on sait qu'il y avait beaucoup d'absents à City. Laporte, Ederson. Mais quand même, quoi.
Oui, Laporte, Ederson, Mendy qui était pas là aussi.
Ça rentre trop vite dans l'humeur.
Qui était très bien en présent, d'ailleurs. Mendy, c'était une séquence assez étonnante parce que, après le match, il y a Pep Guardiola qui est interviewé à notre micro et qui nous dit que Benjamin Mendy, cette semaine, s'est difficilement entraîné, même quasiment pas entraîné en milieu de semaine. Ça fait, je cite, 2 ans quasiment qu'il n'a pas joué. Donc, c'était compliqué de le mettre. Et Benjamin Mendy, l'un de nos journalistes l'a croisé après le match en lui demandant « T'es blessé, tu vas peut-être pas aller à Clairefontaine, ça va être compliqué pour toi. » « Non, je suis en pleine forme, tout va bien, choix tactique. »
Ah. Donc, sur cette antenne, on note bien à 16h25 heure de Paris, Salim Boumgali vient traiter Guardiola de menteur.
Absolument. Je cite simplement les propos de Benjamin Mendy qui parle de choix tactique. Alors, là encore, d'ailleurs, on peut presque réagir à ça. Choix tactique, pourquoi pas? Mais il peut estimer que Benjamin Mendy n'est pas quelqu'un qui défend assez, parce qu'on sait que Benjamin Mendy aime bien se projeter. Et effectivement, face à Liverpool, face au jeu de transition de Liverpool, vous devez avoir des joueurs qui savent, pour le coup, défendre. On l'entend très bien. Après, mettre Angelino, un joueur qui quand même est un tour en dessous, face à Liverpool, face, on l'a dit, Marie-Amélie l'a évoqué, ce trio qui est absolument affolant.
C'était très dur pour lui.
Ça, c'est, oui, on peut le dire, une erreur de la part de Pep Guardiola. Il en fait pas beaucoup dans sa carrière, il en a pas fait énormément, mais hier, typiquement, c'est une erreur. Et en plus, quand à côté de ça, vous avez Stones et Fernandinho qui sont en défense centrale. Fernandinho est un joueur avec une expérience énorme. On est tous là,
qui doit redescendre d'un cran.
Mais qui, malheureusement, n'est pas à son poste de prédilection. Ben, amendé. Oui. Ça fait beaucoup trop.
Et quand on a en plus un arbitre qui voit pas les mains ou les poussettes, d'après Pep Guardiola, ben, ça donne ça pour Pep.
Mike Riley, his people.
Demandez à Mike Riley et aux personnes de la VAR. Ce serait pas très sympa après une défaite de se plaindre à l'arbitre. Ne me le demandez pas à moi, il n'y avait pas de sarcasme. Je lui ai dit merci beaucoup. J'ai dit la même chose lors du match de Tottenham à domicile. Merci beaucoup. Je suis ici pour parler de la rencontre, alors posez-moi des questions à ce propos. Sinon, allez leur demander, mon ami.
Ask to them, my friend.
Bah, on va demander, alors nous on peut pas demander directement à cette personne-là, Marc Riley, c'est qui? On va demander à Salim Boumgali, c'est qui Marc Riley?
C'était l'arbitre de l'assistance vidéo, celui qui était à la VAR, hein, c'est le terme utilisé, pour donc voir ou pas s'il y avait faute de main, etc. Juste petite
alors on parle de main de Terence Trent Arnold dans la surface, voilà, oui. Et d'une poussette de Mané sur Sterling.
Tout à fait.
Rapidement, ça a changé le cours du match, Manchester City aurait pu gagner sans ça, il y a deux erreurs d'arbitrage manifestes.
Je dis pas que City aurait pu gagner sans ça, mais il faut bien le reconnaître, la première main, puisque c'est celle de Trent Alexander-Arnold, elle a lieu juste avant le but de Fabinho,
dans la continuité.
Donc vous pouvez aller presque en mode penalty, et au final c'est un but contre vous, donc forcément on peut comprendre la frustration. Juste deux choses, primo, Mike Riley, c'est l'un des arbitres habituels également de la Première Ligue en Angleterre, ce sont des arbitres de champ qui sont également sur certaines rencontres, arbitres et quatrième arbitre. Je veux dire par là, les plus grands, les David Dean, les Martin Atkins, qui sont des grands arbitres également, sont pour certaines rencontres des arbitres de VAR. Donc, j'entends par là la légitimité. Pour quelle raison les arbitres habituels ne vont jamais voir leur écran? Parce qu'il y a une règle en Angleterre, même si l'écran existe, il existe bel et bien, on leur fait comprendre, hé Coco, t'as pas besoin d'aller, parce que l'arbitre qui est dans le car, c'est un arbitre qui a le même niveau que toi. Donc si lui te dit A, tu le suis, tu fais A. Voilà, donc c'est pour cette raison que c'est cet arbitre qui est suivi. Sur la main en question, je rappelle aussi une règle très importante dans les textes par rapport à la main de Trent Alexander-Arnold. Il est dit que si la main... Alors, je parle pas d'intentionnalité ou non-intentionnalité. Je ne vais pas sur ce point-là. Mais en revanche, si la main est... j'entends pas là... pas, elle est pas retirable, cette main, parce que la balle va beaucoup trop vite sur cette main en question. L'arbitre peut estimer que celle-ci n'est pas une faute et donc peut, à ce moment, laisser l'action se poursuivre. Ainsi, on peut estimer, puisqu'il n'y a pas eu d'explication de la part de l'arbitre, on peut nous estimer et avoir cette lecture-là, peut-être que celui-ci a simplement conclu que cette main était non retirable et que donc il a estimé ainsi que cette main et cette action pouvaient se poursuivre. Tout simplement.
Mais sans la main, le ballon il va à Silva.
Sans la main, le ballon se poursuit et il peut y avoir Silva. Une action. Mais je rappelle aussi qu'au début d'action, il y a aussi la main de Bernardo Silva d'abord qui va
sur
ensuite
contrôle.
Sur la main de Trent Alexander-Arnold. Voilà, il y a malheureusement plein d'étures, comme quoi même avec la vidéo, on peut toujours avoir plein d'étures différentes autour de cette table, et des millions de personnes ont eu cette lecture aussi.
La lecture du classement, Liverpool 34 points, Leicester Chelsea 26, Manchester City 25, voilà le Big Four en quelque sorte du moment. On peut vraiment parler de Big Four à ce moment-là, parce que derrière Sheffield et Arsenal n'ont que 17 points, c'est-à-dire deux fois moins que Liverpool, on parle du 5e et du 6e, et ça nous prouve que cette première ligue est l'antithèse de la Ligue 1, où entre le 2e et le 18e il doit y avoir 3 points, j'exagère à peine. Qu'est-ce qu'on peut dire de la photographie à ce moment-là, avant de passer à un autre championnat, de ce classement? C'est vrai que c'est assez étonnant, Sheffield-Arsenal, alors Sheffield c'est un peu surprenant, 17 points, quand on regarde la tête, ils sont au
non, mais
top 4.
Il y a beaucoup de choses de toute façon dans ce championnat, vous avez Tottenham qui est 14e du championnat par exemple aussi, ça fait partie de ce championnat anormal, et cette année vraiment anormal, parce que il faut quand même rappeler une chose, c'est que le parcours de Liverpool est anormal. Après 12 journées, 11 victoires, 1 nul, c'est un rythme de super champion, entre guillemets. Même City, qui a réalisé pourtant ses performances phénoménal les dernières saisons, même City n'en était pas là. Au final, quand tu vois Leicester et Chelsea, 26 points après 12 journées, c'est un rythme de champion, de beau champion potentiel. Donc c'est Liverpool qui rend ça anormal. Mais ce que fait Leicester, Chelsea, City, c'est un très bon rythme. C'est Liverpool qui est anormal. Et après, les autres, bon, Sheffield, Arsenal, je mets ça hors concours parce qu'Arsenal, malheureusement...
On va avoir l'occasion d'en reparler parce qu'ils vont bien nous virer Unai Emery dans les semaines qui viennent. Non, pas
oula,
sûr.
Ça c'est pas sûr
il
du tout.
Il a été conforté hier soir, je crois.
Ben, bah, après, vous savez, quand un président ou des propriétaires
c'est quand on conforte que ça sent mauvais.
En général, bah, ça, c'est pas forcément la bonne nouvelle. Mais après, Sheffield et Arsenal sont dans leur championnat, j'ai envie de dire. Mais c'est Liverpool qui est anormal et qui, entre guillemets, nous donne une lecture anormale. Mais Leicester, Chelsea et City sont dans un rythme de bons champions.
En spectateur tout à fait objectif que nous sommes, Liverpool est délicieusement anormal, en tout cas, parce que c'est bien agréable à regarder un match comme celui-là. Vous l'aurez compris, on a tous pris du plaisir. On passe outre Rhin.
Klasse gespielt! Ball hinter der Linie! Aus für Lewandowski! Kein Abseits! Und das ist die Führung!
Il va bien, le monsieur, hein, rassurez-vous, il va très très bien.
Mais c'est,
on a eu sa famille en ligne,
tout
va bien. Ouais, j'adorerais.
Eh oui.
Oh, ne me lancez pas, j'adorerais. Vraiment, mais je ne parle pas la langue de Goethe. Or, donc, le Bayern n'est pas mort, il va même plutôt pas mal. Les crises, chez ces gens-là, c'est chez géants-là, ne durent jamais bien longtemps. Samedi, les Bavarois ont encore étrié Dortmund 4-0, David Lortolari. C'est toujours la même histoire, hein.
Oui,
on 6-0 il y a deux ans, c'est ça? 5-0 l'année dernière?
5-1 ou 5-1, je crois.
Enfin, des gros écarts, quoi. Voilà,
c'est des gros écarts. On avait un petit indice quand même. Je veux pas refaire l'histoire parce que c'est surprenant ce qui s'est passé malgré tout, mais on avait un petit indice avec le match précédent quelques jours avant en Coupe d'Europe où le Bayern était revenu à des choses simples contre l'Olympiakos.
2-0.
Avec ce nouvel entraîneur, enfin ce nouvel entraîneur, l'adjoint qui avait pris la place du titulaire, Kovac, parti, enfin, débarqué, démissionné, ouais. Remercié. Et on avait compris que le Bayern, en revenant à des fondamentaux avec les formidables joueurs qu'il a quand même dans son effectif, pouvait faire de belles choses. Sans être flamboyant, sans être brillant, mais revenir à une équipe sérieuse, solide, qui fait mal quand même à l'adversaire. Et ça s'est confirmé contre Dortmund, sans doute aussi Olivier, parce que Dortmund était en dessous de tout. Alors ça, c'est difficile à expliquer. Plus difficile
c'est
que le réveil
surtout
du Bayern.
Parce qu'on les attend dans ces matchs-là.
Et oui, et oui.
Les journées noires.
Surtout que trois jours avant, ils font le match incroyable face à l'Inter. En étant menés 2-0, ils gagnent 3-2. C'est ça aussi.
C'est
peut-être à cause de ça.
Avec un Achraf Hakimi, l'international marocain, qui avait été incroyable. Il avait fait son match de l'année contre l'Inter. Et là, il a été complètement éteint. Alors certes, je veux pas être long sur un seul joueur, mais dans ce match-là, il a face à lui Kingsley Coman, qui est quand même très très remuant et qui est difficile
on l'a vu avec les Bleus,
difficile à défendre.
En forme, oui.
Et derrière lui, le jeune Canadien de 19 ans, Alphonso Davies, qui réalise là son meilleur match depuis qu'il est arrivé, qui a rarement eu la confiance de son entraîneur, qui est un ailier repositionné latéral gauche. Et là, donc du coup, il s'est retrouvé Hakimi avec deux joueurs très remuants face à lui. C'était peut-être très compliqué par rapport à ce qu'on avait vu en milieu de semaine contre l'Inter. Mais ça, c'est de la lecture sur un individu. Pour le reste, c'était vraiment flagrant la différence entre les deux équipes. Moi, ce qui m'a frappé, messieurs et mademoiselles, c'est que le Bayern n'était pas du tout celui qu'on avait vu les dernières semaines. À croire que simplement parce que
un problème avec Kovac.
Exactement. Et d'ailleurs, ça a été dit même plus à demi mot par le président Uli Hoeneß qui a dit devant les micros. Oui, effectivement, le micro de la télévision publique. Oui, effectivement, il y avait une partie de l'équipe qui était pas en guerre, mais qui était devenue adversaire de l'entraîneur.
Marc.
Oui, il voulait faire un putsch. Après, je sais pas si Dortmund n'a pas ce complexe par rapport à cette équipe du Bayern, parce que la saison passée, Dortmund perd le titre à cause d'eux. C'est-à-dire que c'est Dortmund qui laisse la place pour le Bayern. Parce que le Bayern n'est pas champion si Dortmund ne fait pas n'importe quoi la saison passée. Mmh. Et aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas ce complexe qui est mis en place? Et c'est ça, pour moi, parce que pour avoir suivi la Ligue des Champions face à l'Inter menée, ils reviennent une ambiance de dingue. C'est-à-dire et là, en plus, on a un Bayern. Alors, c'est vrai, Francfort, la semaine dernière, c'est une claque. Alors j'entends bien le putsch des joueurs, mais si d'un coup on voit une telle prestation, un Lewandowski, un Gnabry, tous ces joueurs-là reviennent à leur meilleur niveau, Dortmund a du talent. Et ils se font du mal eux-mêmes.
Vous venez de citer Lewandowski, Gnabry, je vous adore, parce que on y est. Tout ça grâce à qui? À Robert Lewandowski, dont parle très bien Serge. Gnabry, milieu de terrain, offensif, 24 ans.
2-3 solutions dans la surface de réparation sans trapir. Et le ballon sorti in extremis avec la retour. Cet homme est un phénomène absolu. Robert Lewandowski, le 15e de la saison.
Robert Lewandowski, attention avec cet appel de la part de Philippe Coutinho. Quelle remise, quelle remise.
Robert Lewandowski, le doublé est fait. Et le Borussia Dortmund est à terre, 3-0. 16e but de la saison, c'est phénoménal.
Actuellement, Lewandowski n'a pas de limite, pas même le ciel. Nous sommes très heureux de l'avoir en pointe. Il est dans un état de forme comme jamais. Donc c'est super pour l'équipe et encore plus pour lui. J'espère qu'après la trêve internationale, il reviendra au même niveau.
Serge Gnabry, donc, qui parle de Lewandowski. Vous aurez constaté qu'en termes de goûts musicaux, Laurent Salerno est très éclectique. Ouais. Hein, la valse viennoise, la valse bavaroise. Ouais. Et Pierre-Olivier Guérin aussi, me dit-il. Ils sont deux aux manettes. Deux. Quelle chance on a, et surtout les moyens. Incroyable. RFI ne recule devant rien, mais ça, vous l'aviez compris. Lewandowski, donc, buteur discret, mais toujours diablement efficace. Avant de vous donner la parole, on a fait travailler Marie-Amélie sur le Polonais.
Et oui, Lewandowski, c'est 16 buts en 11 matchs de Bundesliga cette saison.
Ah oui, quand même.
6 en 4 matchs de Ligue des Champions. Et oui, il est arrivé au Bayern en 2014 et il a inscrit 128 buts en 159 matchs de championnat, sans compter cette année. Donc en moyenne, ça fait presque 26 buts par saison. C'est très, très solide.
Ça claque. Ça c'est vraiment de la stat. Ah, non, mais... Pour le coup, de temps en temps, la stat tue la stat. Là, boum, ça vous assoit le bonhomme.
C'est dommage qu'il soit polonais presque.
Vous voudriez qu'il soit quoi?
Mais non, mais façon de parler, on n'en parle pas assez, quoi. On le met pas assez en avant. Dommage qu'il est au
un
Bayern.
Un peu comme Mané le Sénégalais pour le Ballon d'Or, vous voulez dire?
On peut dire ça comme ça. C'est quelqu'un qui est capable de marquer des buts, qui ne s'arrête jamais, qui travaille pour l'équipe. Et malheureusement, on n'en parle pas forcément. Je ne veux pas dire qu'on délaisse la Bundesliga, mais on doit reconnaître le talent de ce joueur-là et qui, malheureusement, bah ouais, c'est presque basique. Hein. Marie-Amélie nous sort les stats, c'est très impressionnant.
C'est pour ça que ce matin, quand on s'est parlé avec le réfé, Marie-Amélie, tout ça, on avait envie, on s'est dit, mais ce gars, tout le monde le connaît dans le milieu du foot, mais connaît-on ses stats?
Mais non,
on va venir vers vous, David.
J'appuie, malheureusement, et c'est depuis ces dernières années.
Vous voudriez qu'il vienne en première ligue, vous, par exemple?
Oh, bah, ah ouais, s'il veut venir à West Ham, il n'y a pas de problème. Le problème, ça fait partie de ces joueurs-là, les Cristiano, les Messi, les Lewandowski et ces autres joueurs qui marquent je ne sais combien de buts par saison, qui au final banalisent la performance. Et bon, Cristiano et Messi, vous allez me dire, c'est encore au-dessus entre guillemets parce qu'ils marquent encore plus et on se rend pas compte de la chance que l'on a de pouvoir les regarder chaque week-end. Lewandowski, c'est la même catégorie, que ce soit en Bundesliga et en Ligue des Champions, on a la chance de le suivre. Malheureusement, on s'en rend pas compte et on ne le comprendra qu'après la fin de sa carrière d'ailleurs.
David, parlez-nous de lui.
Ben, d'autant plus que c'est d'autant plus urgent d'en parler, Olivier, que en fait les défenseurs, tous les défenseurs centraux en particulier du championnat et dans toute l'Europe, puisque tout le monde le connaît tout de même, le rudoie. Sont durs sur lui. Il subit beaucoup d'attaques physiques aussi, je veux dire, pendant les matchs. Et ça nécessite une dimension physique qu'il ne se cache pas de travailler au quotidien d'ailleurs. Il est très exigeant vis-à-vis de son travail à l'entraînement et au-delà. Deux choses sur Lewandowski. Les 16 buts en 11 matchs qui ont été cités à l'instant, ça nous emmène, et bien sûr qu'il ne tiendra pas ce rythme, mais ça nous emmène sur 50 sur la saison. Ouais, le record étant celui de Gerd Müller, les fameux 40, que, sur lequel
en France,
on bute depuis...
En France, on est 44 avec Skoblar, peut-être quelque chose.
Oui,
hein,
mais il doit y avoir 4 journées de plus, puisqu'il n'y a que 34 journées en Allemagne, donc ça fait déjà une différence. Moi, pour atténuer un tout petit peu l'enthousiasme de mes camarades, je ne serai jamais un moqueur vis-à-vis de Lewandowski, mais il a quand même une faiblesse en tant qu'attaquant de pointe, en tant que numéro 9. Il y a quand même beaucoup de contrôles. C'est pas le cas en ce moment. Mais il y a beaucoup de contrôles qui partent à 5 mètres. Et souvent, il y a des ballons, on se dit, mais il pourrait faire encore mieux! Et c'est pas seulement parce qu'on connaît Cristiano, parce qu'on connaît Messi, parce qu'on a effectivement une banalisation de ces stats-là. On voudrait presque encore mieux de ce joueur-là, et c'est peut-être le meilleur hommage qu'on puisse lui rendre, parce qu'il est déjà effectivement très fort.
Il pourra jouer en Ligue 1 alors contre la 5 mètres.
Elle
était facile.
Je suis content que ce soit lui qui le dise. Ça me va de ne pas être toujours le méchant tout le temps.
Alors que à la base, hein.
Oui, ah oui, mais je l'assume très bien. Les auditeurs le savent. Tiens, voilà le méchant. Hansi Flick, lui, est un gentil. Hansi Flick, c'est lui qui a remplacé donc Kovac viré la semaine dernière. Il a été l'adjoint de Joachim Löw auparavant dans le titre de 2014. Il a été appointé temporairement, nous a-t-on dit. Depuis, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, Wenger a dit que le Bayern l'avait contacté, mais le Bayern a dit qu'il n'avait pas contacté Wenger, que c'était Wenger qui les avait contactés. Bref, ils sont fâchés.
Et ils vont se rappeler, néanmoins.
Ah, ils vont se rappeler.
Vous avez peut-être pas de réseau.
Ils avaient peut-être pas de réseau. Ils avaient pas le bon opérateur.
C'est très bien pour ça.
Est-ce que, finalement, Flick est parti pour rester ou c'est même pas pensable?
Alors, des petites indications. Il était question de l'utiliser, entre guillemets, même si le mot est horrible, juste pour ce match de Coupe d'Europe qu'on a mentionné, le 2-0 contre Olympiakos et le classiqueur dont on parle en ce moment, et qu'ensuite on se donnait le temps au Bayern, puisqu'il y a la petite trêve, de faire appel à un nouvel entraîneur.
De contacter Laurent Blanc pour savoir si Gasset est dispo.
je crois pas qu'il soit sur la liste. Mais non, le président Rummenigge a dit, on est quoi, on est lundi, il a dit hier, jusqu'à nouvel ordre, Hansi Flick est l'entraîneur du Bayern. Ça veut dire qu'il lui donne un peu d'air. Et
jusqu'à la trêve au moins.
Mais même plus, c'est-à-dire que tant que, enfin, la lecture qu'on peut faire de déclaration du président Rummenigge, c'est que tant qu'il y aura de bons résultats, Hansi Flick restera. Voilà, je peux pas vous en dire plus puisque ils ne nous ont pas donné davantage d'indices. Mais ça veut dire que s'il y a 4-0 toutes les semaines, il va rester.
Oui, ça, on pense aussi que ce serait logique. Et du côté de Dortmund, est-ce qu'on doit s'inquiéter d'y croire toujours et finalement de rentrer bredouille avec Lucien Favre ou avec d'autres avant?
Ben, il y a des précédents, malheureusement. C'est-à-dire que Lucien Favre a usé son crédit managérial auprès des équipes précédentes qu'il a entraînées, avec le Hertha Berlin, avec Mönchengladbach aussi. Bon, ça veut pas dire qu'un entraîneur doit échouer au bout de 2 saisons et demie ou 3 saisons et qu'il doit absolument partir. Mais on a l'impression que Lucien Favre, il y a des incompréhensions qui s'installent systématiquement entre lui, qui est un théoricien, qui est un tacticien, qui est un fin travailleur du football et connaisseur du football, et son entourage, ses joueurs, ses dirigeants. Et Lucien Favre, ben, y a un exemple qu'on peut donner là, c'est qu'il a fait sortir Jadon Sancho, le formidable joueur anglais, je crois que c'était à la 35 ou à la 40e minute. Il n'y avait pas de blessure, il n'y avait pas de soucis musculaires, il n'y avait pas. Il l'a fait sortir parce que, a-t-il expliqué après le match, Lucien Favre, il ne répondait pas à mes attentes. Ok, c'est une sanction, ça peut exister, l'entraîneur a le droit de sortir un joueur avant la pause, mais ça veut quand même dire qu'il y a un problème de fluide, clairement, entre les deux, et Jadon Sancho était tellement bon la saison dernière qu'on s'inquiète pour Dortmund, parce que si l'entraîneur est obligé de sanctionner son jeune joueur au cours d'un match où toute l'équipe boit le bouillon, pour moi, c'est pas un très bon indice vis-à-vis de la mainmise qu'il a sur son groupe, et je suis pas sûr que ça soit l'harmonie en ce moment à Dortmund.
Alors voilà, on a parlé des équipes de tête. Ça serait la logique, mais non, finalement, on vient de parler du Bayern et de Dortmund qui ne sont pas en tête, puisque le leader s'appelle, c'est toujours un plaisir hein, de le prononcer, Mönchengladbach, mais moi je le pratique depuis à peu près 40 ans, car ce club-là était un des clubs de notre enfance,
quasi aussi vieux
tous,
vous.
Parce que oui, bien sûr, mais là encore, j'assume parfaitement, mon jeune ami. Mönchengladbach, leader avec 4 points devant le Bayern, donc, et Leipzig, un leader qui sent bon les années 70, Monsieur Baumgalli, puisque Marie-Amélie va nous le confirmer.
Et oui, Mönchengladbach, c'est 5 titres de champion d'Allemagne entre 1970 et 1977 et 2 coupes de l'UEFA aussi dans la même période. Et depuis le passage à la nouvelle formule de la Bundesliga en 1964, c'est même le second club le plus titré en Allemagne derrière le Bayern Munich à égalité avec le Borussia Dortmund. Et donc après une longue période un peu plus médiocre, Mönchengladbach est remonté en Bundesliga en 2008. Et aujourd'hui, ils sont donc premiers, vous le disiez, Olivier. Et ils sont emmenés par un duo d'attaquants qu'on connaît bien ici en France, l'ancien Niçois Alassane Pléa et l'ancien Guingampais Marcus Thuram, 9 buts et 8 passes décisives à eux deux depuis le début du championnat.
Comme quoi la Ligue 1 hein.
J'ajoute qu'ils en sont quand même à 7 victoires sur les 8 derniers matchs et leader 5 journées de suite, bah ça ne leur était pas arrivé depuis 76-77, excusez-nous, hein, vous étiez loin de tout cela mon cher.
Heinz Weisswiller
pour certains autour de la table,
exactement,
ça disait quelque chose.
Exactement, Heinz Weisswiller.
76-77, est-ce que autour de la table ça vous disait quelque chose quand même? Je me tourne vers David Bertolari, oui. Marc Libra. Oui. Ah oui, donc je suis quand même pas si vieux finalement.
Moi, je nais à ce moment-là, mais j'ai les livres de l'époque.
Mais c'est vrai qu'on oublie. Alors, c'est vrai que c'était l'époque de la Coupe des clubs champions et on connaissait Mönchengladbach parce que ça tombait contre Saint-Etienne.
Exactement.
Parce que c'est pour ça que ça.
Il y a pas longtemps, on a parlé de Saint-Etienne.
Et je vais aller plus loin puisque Marie-Amélie le disait, les deux coupes de l'UEFA qui ont été remportées par Mönchengladbach, 75-79. À l'époque,
c'est l'Europa League, hein, pour ceux qui, c'est l'ancêtre de la Ligue
c'était
Europa.
Mieux, ouais, c'était mieux, ouais, mais c'était plus qualitatif.
Et exactement. Et surtout, un intérêt autre, c'était un vrai rendez-vous. On voulait la gagner, la Coupe de l'UEFA. Alors qu'aujourd'hui, l'Europa League, on
c'est
le sait.
C'est un lot de consolation.
En phase de groupe, on met les équipes baissées. À partir des 16e, des 8e, des quarts, on commence à mettre les équipes A, quoi. À l'époque, non, c'était un intérêt réel. Et puis, c'est vrai que dans cette équipe, Weisswiller, donc le coach, on a eu Bertie Vogts, quand même, l'une des légendes de Gladbach. Enfin, c'est un nom qui, peut-être pour les plus jeunes, évidemment, résonne moins, mais c'est un grand nom allemand, évidemment.
Mönchengladbach, mon cher David.
Il y a eu un accident. Il y a eu un accident cette saison. Le 0-4 à la maison au début de la campagne de voilà, contre le club autrichien de Carinthie que personne ne connaissait en dehors d'Autriche. Tout à fait. À Wolfsburg, cet accident, ils l'ont très bien assumé, très bien digéré, et pour le reste, c'est dans la lignée de ce que vous disiez, Olivier. Toutes ces victoires, y compris contre la Roma, le 2-1, enthousiasmant la semaine dernière, c'est des marques de témoignages du passé qui, dans les tribunes de ce stade-là, font énormément écho, y compris aux jeunes supporters, parce que on est en train de retrouver quelque chose, une étincelle, une dimension européenne, ça leur plaît beaucoup là-bas, ça leur plaît beaucoup, et c'est un peu nouveau pour le reste de l'Europe, parce que c'est vrai que c'est loin. Les images, elles sont en noir et blanc, souvent.
Vous en aviez jamais entendu parler, Marie-Amélie, quand on a évoqué ce nom-là ce matin, vous nous avez pris
non,
pour un fou.
Non, de leur épopée dans les années 70, non, je dois avouer que je n'étais pas au courant.
Non, mais en plus, il faut reconnaître que le nom n'est pas compliqué, ça se trouve où ? Encore un club de la Roure ?
Oui, c'est sur le Rhin.
Et dans la Roure, il y a combien ? 15 clubs sur 18
et beaucoup en deuxième division aussi, comme Bochum, par exemple, et d'autres. Oui, c'est dans l'ouest de l'Allemagne, et il y a un homme qui n'a pas vieilli là-bas, qui est Rainer Bonhof, qui était l'un attaquant, qui est toujours très très proche aussi du groupe professionnel et qui pour moi est un bel ambassadeur de ce club-là. Juste un nom qu'il faut mentionner absolument, Olivier.
On a parlé de Pléa et de Thuram, hein, parce que c'est vrai que ces deux-là, elle a raison, Marie-Amélie. On les avait chez nous il n'y a pas si longtemps. Et
Marco Rose, l'entraîneur là-bas, qui a fait de belles choses avec Salzbourg précédemment, qui est arrivé là avec toute la confiance accumulée, il l'a transmis à ses joueurs et c'est peut-être la raison principal, cet entraîneur décontracté, très positif, il aide ce groupe à aller vers le haut. Je suis pas sûr pour parler de Marcus Thuram qui reste longtemps à Mönchengladbach parce que j'ai l'impression que ce jeune est en train d'éclater et va faire de très belles saisons dans le futur.
Donc ailleurs qu'en Ligue 1.
La Ligue 1 justement, l'Olympico.
Parce que on parle de Liverpool City, mais il y a beaucoup mieux quand même.
Place aux choses sérieuses, les amis. Laurent Salerno vous emmène comme si vous y étiez au Vélodrome à Vélassagne.
Bonsoir à toutes et à tous. Parfois, il ne sert à rien de parler, donc écarquillez grand les yeux. Profitez et regardez cette beauté. Payet. Face à Lopez, Dimitri Payet, Pierre-Lucas qui ouvre le score et qui montre le blason, il a bien raison. Devant la tribune Jamouin, Dimitri Payet qui ouvre le score, 1-0 pour l'Olympique de Marseille. Payet, ça fait 2-0 et le doublé de l'homme du match pour le moment. Et oui, ici c'est Marseille évidemment, il est monstrueux depuis le début de la partie, cet homme. Et ça fait 2-0 pour l'Olympique de Marseille, le doublé de Dimitri Payet.
C'était donc l'Olympico sur l'OMTV, il faut quand même le préciser, hein, on est sur la chaîne du club et ça s'est bien entendu, t'es quoi toi le garçon ? Grosse tension, gros tifo pour les 120 ans, quelle ambiance de dingo, grosse victoire des Marseillais 2-1, il est arrivé, il ne touchait pas terre, Marc Libra. C'était formidable à voir. On a l'impression que c'était au parc André Citroën, là. Il y a ce ballon, là, machin. Mais on avait, il se l'était mis dans le dos. Il planait.
Je vole. Je vole
depuis. Il a dit, on est champion du monde. On n'a pas la coupe champion du monde.
Depuis hier soir, je vole.
Ah oui, oui.
Je me déplace plus, je vole.
Vous voyez les belles têtes que Marc Libra marquait en Ligue 1.
Voilà.
C'est pareil. Voilà. C'est pareil.
Ça fait 10 ans que vous n'aviez pas vécu une soirée comme ça avec votre club.
Non, il n'y a pas
ça.
En Ligue Europa.
Oui.
Un quart de finale, un demi-finale.
Mais face à Lyon, ça faisait 5 ans que vous ne les aviez pas battus. Alors ça se fête.
Oui, il n'y a qu'un seul Olympique, donc je ne connais pas. Désolé.
Bon, enfin bref. Alors, on a beaucoup parlé des grosses affiches du week-end en Europe. On termine par celle-là, parce que pour une fois, c'est bon de terminer par la Ligue 1 et de rendre honneur aux autres. C'était un bon match, quand même. Rapide tour de table. Vous avez, on terminera par vous, Marc, mais globalement, oui, c'est juste après Liverpool City, mais quand même.
Non, mais il y avait des séquences intéressantes, des séquences de jeu, on les évoquera individuellement parlant. Il y avait des histoires, au moins. Il y avait, à 2-0, Lyon qui revient à 2-1, en plus un rouge, on se dit, ah, bah, il y a encore un attrait supplémentaire. Est-ce que Lyon va marquer le deuxième? Marseille va résister. Donc, il y avait des histoires, il y avait des séquences, et on en parlera, qui étaient dignes de la Ligue 1, et d'autres qui étaient dignes de la Coupe d'Europe aussi.
Marie-Amélie, vous achetez quel match si vous êtes chez vous? Je sais que vous avez vu les deux. Mais
j'ai vu les deux, mais je dois avouer que ça faisait longtemps que j'avais pas autant apprécié un match de Ligue 1.
Ah ben voilà,
c'est vrai.
Ah, ça tout de suite, et Marc Libra tout d'un coup.
Elle est bien cette petite. Elle est bien.
Et il paraît qu'elle joue super bien au baby. Je vous le dis, elle joue au baby foot. Donc comme on est deux grands fans tous les deux, va falloir lui proposer. On va faire un match à quatre. Vous serez remplaçant, hein, David Bortolari et Salim Bombali.
Pas de problème.
David.
C'est rigolo cet OM, parce que on se moque de lui quand ça va pas, on brocarde les joueurs en disant qu'ils sont en dessous de
tout.
Oui,
puis on aime ça, c'est ça qui est bien.
Mais ils doivent pas être si mauvais que ça malgré tout, ces joueurs de l'OM. Je parle collectivement, le groupe, l'ensemble, l'équipe qu'il y avait sur le terrain, notamment hier soir, avec certes Dimitri Payet, où on doit s'arrêter sur la performance de Dimitri Payet. Par ailleurs, l'OL, ça c'est décevant quand même aussi. Non mais parce que vous parlez aussi, d'un bon match. Moi je veux bien dire que c'était un bon match. Je vais être d'accord
avec vous.
Il faut
être deux pour ça.
Bah oui quand même.
C'est vrai,
il faut qu'il y ait quand même un vrai duel, un vrai défi et que ça dure sur l'ensemble du match. Lyon est décevant.
Messieurs, je vous propose, on lance Marc Libra. On va se boire un petit café, on est dans 5 minutes.
Exactement.
C'est comme ça que ça se passe. Marc, allez-y, c'est à vous, votre moment.
Le scénario est quand même dingue par rapport à ce match. Le caillassage. L'entrée,
le caillassage donc du bus, rappelons-le à nos auditeurs. Non, les images sont assez.
On n'a pas assisté, c'est clair, au plus grand match, mais le scénario est quand même. Ça démarre le caillassage. Olas qui descend, je veux pas jouer.
Vous avez été
l'entrée des joueurs. Oui, ça m'est arrivé de partout.
C'est impressionnant quand même. Ça peut déstabiliser.
C'est impressionnant la première fois, puisque la première fois c'était au parc, donc on allait jouer au parc en 93 et on nous dit mettez-vous sur le fauteuil extérieur parce qu'on va être caillassé. Donc on met des rideaux et les pavés tombaient. Bon, on récupère des pavés, des pierres, mais c'était ça m'est arrivé à Cannes, ça m'est arrivé de partout, sauf en Angleterre, en Écosse. Et croyez-moi, quand vous arrivez au Celtic ou Rangers, vous fendez la foule avec le car. Il nous est jamais rien arrivé, même avec Ips quand on va jouer.
Ces gens-là ont inventé le jeu.
On
le
est d'accord.
Sport.
Non, mais c'est le petit parallèle parce qu'on m'a dit oui, mais en Écosse, non, Écosse, Angleterre, même à Norwich, on va Ipswich, rien, il se passe rien. Alors ouais, on se fait insulter, on se fait un peu. Voilà, mais c'est voilà. Et là, donc oui, ça m'est arrivé en France, à Lyon, ça m'est arrivé à Saint-Étienne, ça m'est arrivé. Mais c'est pas grave. Donc ça, c'était voilà. Donc le scénario est terrible puisqu'il y a le caillassage, il y a Olas qui dit ça, il y a le tifo, il y a la petite claque de Benedetto, il y a l'embrouille, il y a le pénalty de 6 minutes, il y a la mi-temps de
6 minutes entre la faute sifflée et le pénalty tiré. Mais et finalement 3 minutes de temps additionnel.
Voilà, 3 minutes.
Mais dans si c'était Simone Zaza, peut-être on aurait eu 6 minutes.
Mais il y a Payet qui montre ses couronnes au public. Il y a cette mi-temps. Ça redémarre.
Mais c'est d'une vulgarité ce match finalement.
Mais c'est pas ça. On se rappellera de tout ça en fait. Quand je vois ça, mais c'est toute une histoire à raconter. C'est une histoire marseillaise en fait. Et on a un mauvais Lyon qui d'un coup les fumigènes, les joueurs, ils sont perturbés. Traoré qui a un centre et Dembélé qui marque. Mais c'est le scénario est magnifique. Et à l'arrivée, une victoire, l'ambiance, la folie, parce que ça a commencé à 10h du matin à Marseille, les fumigènes dans les rues de partout. Donc si vous voulez, oui, il y a tout. Voilà, magnifique.
Je vais me permettre de tempérer un petit peu les propos de Marc Libra.
Mais j'étais très très léger, très light.
Parce que effectivement, il explique à juste titre qu'il y a un scénario. Non, il y a beaucoup d'histoires. Ça, c'est un fait et beaucoup de rebondissements, et que ce soit avant le match, oui, après le match, pendant, pas de souci.
J'en ai oublié, je pense.
Marc a dit ah mais ce match, on s'en souviendra longtemps. Non, on va se calmer. Ça reste Marseille-Lyon. Il y a eu 2-1 pour Marseille. C'était la fête. Non, là où il a pas totalement tort, c'est que ça restait la fête autour des 120 ans du club. Donc ça, je peux pas le nier. Après le match même, oui, si Marseille au final finit 5e et que Lyon finit 3e, j'ai envie de dire ce match on s'en souviendra pas.
C'est gravé parce qu'il s'est passé quelque chose avec le public.
Je vais vous mettre d'accord, vraiment.
Après, il faudra voir si sportivement il y a une continuité chez l'OM.
Alors, ce dont on pourra peut-être se souvenir, c'est de Dimitri Payet. Payet le héros. Il a allumé la mèche en conf. Il s'est mis seul une pression de dingo. Il a répondu présent, et le truc qui est dingue, c'est qu'il assume.
J'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai parlé avec, avec mon cœur, voilà, j'avais des choses qui étaient en moi et qu'il fallait que ça sorte, tout simplement. Voilà, je les ai dites. Après, oui, ça a fait pas mal parler, pas mal écrire. Ça m'a pas empêché de rester focus et concentré sur ce qu'il y avait à faire ce soir. Et c'était aussi une façon de se servir de ça pour se motiver.
Voilà, on rappelle, hein, vous l'avez entendu, c'était vendredi, je pense, dans le Café des Sports, ou peut-être dès jeudi, je ne sais plus quand est-ce qu'il y a eu les conférences. Dimitri Payet qui avait dit, bah, il y a quelques mois, Rudy Garcia était notre entraîneur, et quand il s'est agi de jouer contre Lyon, il a employé des mots à la causerie.
Oui, c'est normal, voilà, mais c'est tout le temps pareil. Tous les coachs font ça.
Sur Olas, voilà. Oui.
Alors, tous les coachs font ça.
Il y a eu deux camps, il y a des gens qui ont dit qu'il a eu raison.
Non, on ne doit pas le dire.
N'empêche qu'il a répondu présent, il marque le penalty, il marque ensuite un but super. Le problème avec Payet, c'est que bah, ces matchs-là, on sait qu'il les a dans les jambes, mais il en fait un. Le prochain, c'est en 2020. Si on a du bol, sinon, ce sera 2021.
Non, mais ce, c'est Rudy Garcia coach tous les autres clubs que Marseille va affronter. Et peut-être qu'à chaque fois, il sera motivé face à Rudy Garcia.
Peut-être. En tout cas, un mot rapide sur Payet avant qu'on ne parle de Garcia et de Villas-Boas. Marc, je sens que vous avez envie de.
Non, voilà. Non, c'est du gâchis. Simplement, parce qu'il est talentueux. Quand on a ce genre de joueur, alors il a joué que 67 minutes parce qu'il est sorti, il avait des crampes. Quand on a un joueur qui est capable
de C'est-à-dire qu'il joue pas souvent, puis quand il joue, il a des crampes.
Quand il est capable de ce genre de prestations de très haut niveau, il est capable de tirer l'équipe de l'eau, il devient leader, il est habité, on a vu son visage qui est très impressionnant. Il m'a fait penser à une époque où on avait vu Maradona qui était en transe à une époque, donc il y a très 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 longtemps. Mais en tout cas, il faut qu'il reste comme ça. Et s'il reste comme ça, croyez-moi, Marseille va aller très loin. Maintenant, j'espère pour lui qu'il sera toujours comme ça.
Villas-Boas a battu Garcia. On va parler de Garcia après. Mais d'abord, le match entre les deux entraîneurs. Villas-Boas trouve sa place. Marseille est deuxième. Bon, dans un championnat, on le rappelle, où il y a très peu de points entre le deuxième et le quinzième. Tiens, 6 points, je veux dire ça comme ça, entre Marseille et Amiens. Néanmoins, Villas-Boas, bon... Face à Garcia, hier, il a remporté ce match-là.
Ben, il fait encore des choix très importants puisqu'il replace le petit Camara pour la deuxième fois, alors que Garcia l'avait fait la saison passée, mais ça n'avait pas forcément fonctionné. Ça n'avait pas répondu présent. Le petit Maxime Lopez qui va jouer attaquant droit, c'est aussi culotté de mettre Germain sur le banc. Il se passe quelque chose. Cette équipe-là, elle est pas, c'est pas la plus belle équipe, c'est pas la meilleure équipe. Par contre, il est capable de les transcender, de sortir quelque chose. Parce que c'est vrai, hier, c'est pas moi. Par contre, ils ont du cœur. Il s'est passé encore une fois une communion avec le public. Ça se passe très, très peu. Puisque pour moi, la dernière fois qu'on avait vu Payet, c'était sur un quart de finale et une demi-finale de Ligue Europa. Mais vraiment. C'est-à-dire que quand vous dites, Olivier, quand vous dites en 2020, ouais, soyons gentils, c'était il y a 2 ans déjà. Moi, pour moi, quand on l'a vu vibrer.
Vous voyez que je suis gentil.
Non, mais façon de parler.
Je suis gentil dans
cette
émission.
Si vraiment, Villas-Boas, parce qu'il a les ferveurs du public, il ment pas, il dit qu'il n'y a pas d'argent et qu'il va faire avec les moyens du bord, et c'est ce qu'il fait aujourd'hui, donc bravo à lui. Et par rapport à Garcia, bah, il a gagné le premier match qui est quand même un retour aussi, et il y a encore une longue saison à finir.
Garcia, on aurait pu l'écouter, mais on n'a pas le temps, qui est assez sport sur ce coup-là, hein, qui en rajoute pas. Garcia qui revient, qui perd, mais Garcia à la tête d'un Lyon sans Depailly et sans Touzard. Et là, peut-être que tout est dit, parce que moi, je les ai vus en Ligue des Champions mardi face au Benfica. Benfica, c'est faible, mais quand même, il y a une victoire. Il y a une possible, voire probable qualification au 8e de finale. Il reste 2 journées à jouer. Mais là, franchement, alors ils perdent Depailly mardi et tout d'un coup, mardi soir, après le match, on se dit, c'est le pire des trucs. C'est peut-être pas une si bonne soirée que ça, parce que
il y a Aouar aussi qui est touché.
Il y a
aussi Aouar.
Et il y a Aouar, mais au moins, il joue au départ. Là, il n'y a pas Depailly et il n'y a pas Touzard. Ça coûte cher.
Ah oui, ça coûte cher pour une équipe lyonnaise qui, au final,
14e de Ligue 1.
Et c'est là où on se rend compte d'ailleurs que Lyon est même fils de paille dépendant, et pas qu'un peu d'ailleurs. Dès qu'il est fort, dès qu'il est au-dessus, il l'a montré face à Benfica justement. Dès qu'il est là en leader,
sur les 4 derniers matchs,
comme par hasard, il performe. Donc oui, le problème de Garcia, c'est ça. Après, on parlait de complexe tout à l'heure par rapport à Dortmund. Rudy Garcia, est-ce qu'il a pas à un moment donné un complexe lui face au gros? Et dans ses matchs face au gros, parce que au final, à la tête de Marseille, avec la Roma à l'époque, il a un gros souci à ce niveau-là. Dès qu'il affronte un très gros, eh ben, enfin un gros, supposé gros en tout cas,
ben, un très gros il a affronté hier soir.
Je vois même Marie-Amélie qui acquiesce.
Oui, il me semble que Garcia, quand il était à Marseille, a gagné un seul de ses 17 matchs contre les membres du top 3.
Face à Monaco, ouais. Sinon que des défaites, ou que des nuls ou des défaites.
Merci pour cette précision, parce que c'est vrai, je me souviens l'avoir entendu. Ça n'est pas l'homme des grands rendez-vous. Un dernier mot sur Garcia, mon cher David.
Non, sur l'OL. Hein? Est-il capable d'être dans les trois? C'est la question qu'on se pose après ce week-end.
Ça, c'est clair, parce que c'est franchement pas très très bien engagé. Mais enfin, bon, voilà, on sait que, on sait que si Lyon avait gagné, tiens, je vais regarder le classement, Lyon est 14e avec 16 points, Lyon aurait donc 19 points, ben voilà, Lyon serait 5e, ils sont 14e. Cette Ligue 1 est phénoménale.
Il irait bien.
7 milliards de voisins.